Dans le cadre d'un partenariat entre Fréquence Mistral et Alternativa, à raison d'une émission par trimestre, je reçois pour cette deuxième émission Camille Morchet et Stéphane Haar du mouvement Alternativa. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets. On va parler de la gestion des déchets à Marseille et en métropole ex-Marseille-Provence. On va parler aussi de la précarité énergétique et l'habitat indigne à Marseille. Et enfin, on va parler du Tour Alternativa 2024 avec l'étape d'arrivée à Marseille. Alors, avant de commencer à aborder ces trois sujets, j'aimerais qu'on fasse un récap sur Alternativa, qu'on dise aux auditeurs qui est Alternativa, c'est quoi ce mouvement. Vous pouvez nous dire ?
Alternativa, c'est une association d'envergure nationale qui est préoccupée par les enjeux à la fois environnementaux et les enjeux de justice sociale. Donc c'est ça notre marque de fabrique, si vous voulez, hein, de savoir allier les deux. Quand je dis national, on est présent dans plus de 30 villes, hein, chacune avec ses préoccupations plus locales. Et dans chacune des villes ou régions dans lesquelles on est présent, hein, on a une association localement qui, elle, s'occupe d'enjeux qui sont vraiment très... qui concernent la ville en particulier, et notamment ici, donc sur Marseille. Hein, je rappelle que Marseille, c'est quand même la deuxième ville de France. Sur Marseille, on a malheureusement une ville qui est pauvre, et donc il y a des enjeux sociaux qui sont assez évidents, notamment un certain nombre de groupes de travail comme Stop Croisière, concernant les croisières monstrueuses qui envahissent nos ports et qui polluent l'air environnant, voire les fonds marins. Un autre mouvement sur les mobilités à Marseille, qu'on appelle Marseille Mob, hein, et pour vous... chers auditeurs qui vous déplacez dans la métropole, vous êtes bien conscients de ces sujets-là. On en parlera peut-être après tout à l'heure un peu plus en détail s'il nous reste un peu de temps. Et puis un mouvement comme Stop Extension Aéroport de Marignane, Marseille-Provence aussi. Ce sont que des exemples. Et puis évidemment celui des déchets et celui dont on va parler tout à l'heure Camille.
Oui. Voilà, donc alors moi je vais juste ajouter, enfin pour compléter, donc effectivement ce sont des... notre association agit sur des sujets à la fois d'écologie et de justice sociale, donc c'est vrai que des fois on a tendance à dissocier les deux, on va avoir des actions qui vont être purement environnementales, d'autres purement sociales, et en fait le but de cette association c'est de montrer qu'on peut en fait avoir des projets qui vont à la fois avoir un impact positif sur l'environnement mais aussi sur les gens, sur leur santé, sur leur qualité de vie, au niveau du fonctionnement de l'association, donc ça fonctionne essentiellement avec des bénévoles et nous on fonctionne aussi sur ce qu'on appelle du militantisme plaisir, c'est-à-dire que les personnes choisissent les sujets sur lesquels elles veulent travailler. Il n'y a pas d'obligation, les personnes font en fonction de leur disponibilité aussi, et on est autogéré, donc on essaie aussi de pas avoir une hiérarchie verticale mais d'être plus dans un modèle horizontal qui soit à la fois bienveillant, convivial. Donc pour ça on a quelques petites méthodes, notamment en plénière, dans notre façon de voter, etc. On essaie de s'arranger pour rester toujours dans cette optique-là, pour pas être dans un burn-out militant non plus, mais pour conserver le bien-être lors de nos actions et de nos projets. Voilà.
Et je pourrais rajouter que, quels que soient vos sujets d'intérêt et de préoccupation, on en a peut-être qui vous conviennent dans ce qu'on fait. Et puis on a aussi la liberté d'apporter son propre sujet, hein, sur lequel on travaille pas forcément. Et comme l'expliquait Camille tout à l'heure, c'est avec bienveillance qu'ils sont accueillis. Hein. Évidemment, après, il faut trouver d'autres bénévoles pour s'y intéresser, pour construire ce groupe-là. Mais notamment celui dont on va parler un peu après, Thomas, c'est celui de la gestion des déchets. C'est un sujet sur lequel on n'était pas mobilisé il y a 3 ans. Et donc aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs actions qu'on réalise. Et on va en parler en détail. Mais c'était un sujet qu'on a apporté nous-mêmes. Ce n'est pas le national qui nous l'a imposé. Voilà.
D'accord, okay, ben ça tombe bien, on peut, je pense, peut-être enchaîner sur cette question-là, la question des déchets à Marseille. Du coup, 3 ans, c'est assez récent, effectivement. Mais je crois que ça vaut le coup vraiment de prendre ce problème à bras-le-corps. Je vais rappeler un chiffre que j'ai vu dans les documents que vous m'avez donnés en amont concernant la gestion des déchets à Marseille et avec la métropole, parce que c'est lié quand même la métropole et Marseille hein, pour cette problématique-là. C'était en 2020, on a 1 170 000 tonnes de déchets donc pris en charge par la métropole hein, en 2020 et seulement 6,5% provenaient du tri sélectif et ce chiffre continue à diminuer. C'est-à-dire qu'on trie très peu à Marseille et on trie de moins en moins. Moi, je trouve ça assez fou dans le contexte actuel. Enfin, on nous bassine tous les jours ils ont raison d'ailleurs, d'écologie, et il se passe un peu l'inverse à Marseille, j'ai l'impression. Alors, vous pouvez nous raconter un petit peu, nous dire ce qui se passe là pour la gestion des déchets à Marseille, on en est où en fait là?
Bah oui, complètement, Thomas, en effet, il y a un certain nombre de choses qui clochent, et notre discours, il est un discours de bon sens, hein. Il est de se concentrer sur ce qui serait simple hein, à faire, et peu cher, voire qui pourrait rapporter de l'argent. Il faut rappeler que quand même la gestion des déchets, qui est une compétence, comme on dit en droit, une compétence, c'est pas pour ça qu'ils sont compétents, une compétence de la métropole lorsqu'elle a été créée, c'est la gestion des déchets à Marseille devrait être faite avec beaucoup plus de bon sens. D'appliquer des recettes, entre guillemets, de ce qui peut exister ailleurs en France. Je ne parle pas de Copenhague, voire de Berlin. Hein, je parle de villes françaises. Voilà. Donc, quand je dis de bon sens, si on rebondit sur votre chiffre, à savoir que seulement 6,5%, hein, ce qui représente 38 kilos par habitant, qui est recyclé, hein, quand on sait que dans le département d'à côté, hein, où ils sont aussi latins, aussi, je ne sais, sudistes que nous, eh bien, ils sont à 76, hein, c'est le double.
Oui, oui.
C'est le double dans le Var. Voilà. Donc, quand on parle de mesures de bon sens, c'est ce qu'on a dénoncé depuis plus de 2 ans. Hein, on a eu quand on dit dénoncer, c'est qu'on a eu d'abord des rendez-vous avec les gens de la métropole, aussi bien les élus que les gestionnaires eux-mêmes, hein, en leur disant le bon sens, il voudrait quoi? Il voudrait qu'on ramasse une fois de plus par semaine les bacs jaunes, les bacs de tri, et une fois de moins les bacs ordinaires. Pourquoi? Parce que ces bacs de tri, ils débordent. La plupart du temps, ils débordent. J'imagine que proche de chez vous, vous les avez vus déborder. Hein, ceux qui sont les points d'apport volontaires aussi au coin de certaines rues débordent trop souvent. Et donc, on démotive les gens qui font. Hein, une fois qu'on les a démotivés, c'est très difficile de les remobiliser. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir que la tonne de carton, elle a de la valeur. Hein. Elle a de la valeur. Hein, quand vous demanderez à certains grands groupes de distribution hein, pourquoi ils stockent leur carton, ils les compactent à l'arrière de leur supermarché ou de leur hypermarché, c'est parce qu'ils les revendent. Donc ça a de la valeur. Donc non seulement ça serait bénéfique pour la qualité de l'air plutôt que de les brûler. Voilà. L'autre chose de bon sens qui est vraiment extrêmement fondamentale à faire, c'est que chaque individu, personne physique, c'est-à-dire vous et moi, et chaque personne morale, c'est-à-dire toute entreprise ou organisation professionnelle, paye pour ses propres déchets. Or, aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les budgets, en termes de recettes, c'est-à-dire les impôts, ce qui rentre comme argent pour la métropole, il manque plus de 20 millions d'euros hein, de la part des professionnels. C'est-à-dire que les professionnels, je vais vous le faire de manière très très simple, soit ils payent pour leurs déchets à la métropole, soit ils doivent évacuer eux-mêmes leurs déchets avec des entreprises spécialisées, agréées et prouvées qu'ils ont évacué tant de kilos, tant de tonnes de carton. Et aujourd'hui, c'est là à la métropole de facturer cette taxe qui s'appelle la redevance spéciale. Et elle ne le fait pas systématiquement. Donc notre premier reproche dans une ville extrêmement proche, hein, c'est de faire, c'est de faire que la métropole facture ceux qui appliquent leur redevance spéciale auprès de tous les professionnels. Et ces 20 millions d'euros qui manquent, eh bien c'est vous, nous, de notre poche, de manière totalement injuste, qui les payons. Alors évidemment, c'est une mesure de bon sens, c'est une mesure qui n'est pas compliquée, parce qu'elle a la compétence pour appliquer cette redevance spéciale, et c'est une mesure, évidemment, qui va rapporter de l'argent. Voilà. Donc on essaye de se concentrer, en effet, sur ce que... qui nous paraît fondamental, hein, et qui est vraiment, on pourrait dire, les trous dans la raquette de cela. Et quel serait le bénéfice par rapport à la propreté de nos rues, hein? C'est d'abord que nos poubelles débordent moins, d'accord? L'autre chose, c'est qu'elles soient mieux triées, hein? Donc que l'air soit plus pur pour ce qui sera moins brûlé, hein? Et puis évidemment que notre taxe puisse coûter moins cher, que ça soit vraiment, il y ait plus d'équité. Et la métropole elle-même, si vous regardez son site, hein, dit que la redevance spéciale est une forme d'équité, hein, je suis en train de le lire, vous pourrez retrouver les références assez simplement. Elle établit une équité entre tous les usagers en permettant aux ménages de ne pas supporter les coûts d'élimination des déchets produits par les activités professionnelles. Voilà. Évidemment, je pourrais vous en parler encore longtemps, hein, d'autres éléments de bon sens qui seraient à mettre en place concernant cette gestion des déchets, Thomas.
D'accord, ok. Moi, je rebondis sur le groupe de travail. Quand vous parliez tout à l'heure d'Alternatiba, vous parliez de groupe de travail. En fait, vous faites un groupe de travail et vous réfléchissez aux solutions, en fait, c'est ça qu'on peut mettre en œuvre. Et là, vous apportez des solutions, en l'occurrence pour les déchets, en disant qu'il y a le carton qui est valorisable. Si on fait payer la taxe, on récupère de l'argent. Si on incinère moins, on pollue moins l'air. Enfin, et comme vous disiez, c'est des solutions de bon sens. Et voilà, donc c'est difficile à comprendre pourquoi on ne met pas ça en place. Mais peut-être que grâce à vous et aux citoyens, on va arriver à progresser, en fait. L'idée, c'est de progresser, en fait.
Voilà, si je peux me permettre encore quelques secondes pour vous dire que ces solutions, on a proposé à la métropole de les aider à les mettre en place, qui nous ouvrent leurs portes et leurs fichiers, leurs cartes de répartition des points d'apport volontaire pour les déchets triables, etc. Et qu'on voie de quelle façon ça puisse être optimisé. Chercher un bac de déchets triables sur la rue Paradis, vous ne le trouverez pas. Est-ce que c'est normal? Peut-être plus aux angles de la rue. Voilà. Donc faire que ça soit en quantité, c'est peut-être pas si mal. Il n'y a pas des quantités qui manquent en termes de... Hein, c'est le problème, c'est la répartition et puis la fréquence de collecte.
Camille, tu voulais dire un mot peut-être ou...
Sur les déchets?
Oui.
Non, bah alors moi je ne suis pas dans ce
d'accord, tu interviendras après sur la précarité énergétique. Juste pour terminer sur les déchets, il y a aussi les composts qui vont se mettre en place a priori. C'est une obligation, je crois, pour les villes, hein, on est d'accord?
Tout à fait.
Ce qui est super janvier. Aussi comme...
C'est fantastique. Bien sûr. Hein, ça veut dire que l'ensemble des déchets organiques pourront être... valoriser. Alors évidemment, il faut que chaque individu particulier et certains professionnels, hein, puissent regrouper leurs déchets, les mettre dans les poubelles adéquates. Et le compost, c'est de rendre à la nature ce qu'elle nous a donné, entre les épluchures de légumes et puis les os de poulet. Voilà. Et donc, c'est éviter de le brûler, c'est quand même quelque chose de fantastique. Donc, c'est un levier à double sens. Le premier, c'est logistique. Hein, c'est une grosse partie de nos poubelles, les déchets organiques, voilà. Et c'est aussi un levier, quand je dis logistique, ça veut dire qu'il y aura moins de camions qui transiteront, voilà. Et puis c'est un levier environnemental énorme. Hein, juste pour dire, à San Francisco, les agriculteurs se battent pour avoir droit à du compost de la ville de San Francisco. Et donc... caractérise souvent les États-Unis comme un pays extrêmement pollueur, certes, mais néanmoins, c'est pour dire que dans des villes qui sont mobilisées, hein, on arrive à créer de la richesse. Alors, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ?
Ouais, si je me permets de rebondir, enfin, sur l'exemple de San Francisco, je trouve que c'est un bon exemple d'économie circulaire. Voilà, on a des déchets et en fait, on arrive à les valoriser et pour recréer quelque chose voilà, via les agriculteurs. Et je pense que c'est un peu le modèle de société vers lequel on veut tendre, aussi par rapport à l'écologie, tout ce qui est économie circulaire, tout ça.
Bien sûr, oui, c'est ça. Et puis, c'est le retour à la nature. C'est le compost naturel qu'on retrouve, je crois, dans les forêts aussi, ce qu'on appelle l'humus. Et du coup, on peut refaire soit, en fait, refaire de la terre, nous, en fait, avec ces déchets-là. Et on peut aussi créer du gaz, en fait, aussi via des centrales de méthanisation sur lesquelles on peut alimenter, après, chauffer des piscines pour les enfants, des collèges, des écoles. Enfin, il y a vraiment beaucoup de solutions aujourd'hui. Il suffit de les mettre en œuvre. Alors après, c'est des décisions politiques également. Mais oui, il y a des solutions et à nous de... En tout cas, voilà, vous avez fait le choix de vivre dans ce monde-là qui est plutôt un chouette monde. OK, pour la gestion des déchets, je pense qu'on a bien fait le tour.
Oui, oui, en tout cas de certaines actions de bon sens, tout à fait.
OK. Alors maintenant, on va s'intéresser à la précarité énergétique et l'habitat indigne. Donc c'est plus ta partie, Camille. Est-ce que tu peux peut-être rappeler déjà ce qu'est la précarité énergétique, parce que peut-être que tous les auditeurs ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et puis bah, ensuite, nous dire un petit peu quelle est la situation à Marseille, en fait.
Ouais. Une personne est dans une situation de précarité énergétique quand elle n'arrive pas ou qu'elle a énormément de mal à payer ses factures d'énergie. Donc ça peut être dû à plusieurs facteurs, ses ressources donc financières, mais aussi le fait qu'elle puisse, alors ça peut être et ou, mais le fait qu'elle habite dans ce qu'on appelle une passoire énergétique. Donc c'est un habitat qui est très mal isolé et qui va donc du coup avoir énormément de pertes thermiques. Donc il fera froid en hiver et chaud en été. Et dû à ce type d'habitat, on va consommer plus d'énergie pour compenser et essayer d'avoir un certain confort voilà, dans l'habitat. Ce qui va en fait, cette surconsommation d'énergie due à ce type d'habitat va impliquer évidemment des factures plus élevées. Et quand on est déjà dans une situation financière compliquée, ça crée un cercle vicieux dont il peut être difficile de sortir.
Et oui, effectivement. Donc du coup, j'imagine que ça concerne principalement les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens peut-être parfois de rénover leur logement parce que bah, ça coûte cher aussi de rénover un logement. C'est ça,
ouais.
Hein, c'est...
Ouais, alors en fait, donc, il peut y avoir des personnes qui sont considérées voilà, comme, enfin, avec des ressources effectivement très peu élevées, mais il y a une majorité qui va avoir moins de 35 ans dans les personnes qui sont identifiées dans cette situation. Et vraiment, la précarité énergétique, c'est... ça peut être, par exemple, aussi... Une personne peut être dans un habitat qui ne serait pas une passoire hein, énergétique, mais peut avoir du mal, du coup, à payer ses factures. Parce que, par exemple, on peut prendre l'exemple des étudiants qui peuvent être, en fait, naturellement en situation de précarité énergétique sans même s'en rendre compte ou sans forcément mettre un mot sur leur situation. Mais, voilà, ça peut être aussi une personne qui a des revenus moyens, mais dû à son habitat et dû à la, en fait, au pourcentage important de ses factures par rapport à son revenu, va être en situation un peu compliquée. Et puis, bien sûr, on peut cumuler les deux, à la fois l'habitat et à la fois les ressources. Voilà.
Oui, le « et ou » que tu voilà, disais au début. Ok, c'est vrai que c'est un vrai problème, ça concerne du coup beaucoup les jeunes, comme tu disais. Donc c'est la difficulté de se chauffer, par exemple l'hiver. Ça agit vraiment aussi, je crois, sur le psychique et sur le physique des gens, on est d'accord, hein, sur le moral aussi, ça.
Ouais.
C'est...
En fait, voilà, ce genre d'habitat, donc... Certaines stratégies qui sont utilisées quand on habite dans ce type d'habitat, donc passoire énergétique, ou quand on a du mal à payer ses factures, c'est justement de moins consommer d'énergie pour moins payer. Et donc ça va ça va mettre les personnes dans des conditions qui sont bien plus défavorables. Donc elles vont potentiellement avoir plus froid ou plus chaud et avoir des maladies qui vont être associées à ça, bronchite ou autre. Mais l'habitat, alors l'habitat peut des fois à la fois être une passoire énergétique mais aussi indigne. Donc là on va plus être au niveau des délabrements, des moisissures, du taux d'humidité. Dans ces cas-là, quand on cumule et quand on est en plus dans ce type d'habitat, il peut y avoir effectivement des répercussions psychologiques. Donc le fait qu'on ressente un certain mal-être à vivre là et qu'on ne peut pas forcément recevoir des personnes comme on le voudrait, donc ça peut impacter la vie sociale. Ça peut rendre difficiles les conditions de si on veut étudier, si on veut travailler. Donc en fait, ça a énormément d'impact sur les différentes sphères de sa vie.
Et oui, je comprends, parce que c'est quand même son chez soi, et si on n'est pas bien chez soi, c'est compliqué d'être bien tout court, en fait, hein, je crois. Donc,
voilà.
Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a des solutions pour ces personnes-là qui souffrent de la précarité énergétique ?
Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, en fait, il est possible, pour être dans un habitat qui serait... qui permettrait un mieux-être d'éventuellement, si c'est possible, si les personnes rentrent dans cette catégorie, d'avoir des aides de l'État pour rénover son logement. Donc pour avoir une rénovation. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général, les passoires thermiques, donc, comme je disais, vont permettre de consommer plus d'énergie et ça a aussi un impact environnemental. Donc plus d'émissions, étant donné qu'on consomme plus d'énergie, il y a plus de gaz à effet de serre. À peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre viennent de tout ce qui est résidentiel. Donc c'est énorme. Et en fait, il y a un vrai enjeu écologique à rénover aussi les bâtiments par rapport à ça. Et donc cette rénovation, ça permettrait à la fois de rénover les bâtiments dans un but écologique, mais aussi pour les personnes de se retrouver dans un habitat qui serait... qui respecterait leur température de confort, ou avec un taux d'humidité moins élevé, qui permettrait justement ce bien-être physique et psychique. Donc il y a des aides qui sont en fonction des types du revenu. Donc les aides concernent les propriétaires. Donc pour l'instant, en tant que locataire, on n'a pas vraiment de pouvoir sur ça. Il faut en fait essayer de convaincre son propriétaire de voir les avantages parce que donc il y a une réglementation qui oblige les propriétaires à passer de la classe G à F parce que les bâtiments ont différentes classes, sachant que les bâtiments qui vont avoir de bonnes performances énergétiques sont classés A. Voilà, donc mais il y a énormément de bâtiments de type G à F et tout l'enjeu c'est de réussir à les rénover. Seulement le coût de la rénovation peut être assez élevé si on passe de G à A. Donc ce qui est mis en place actuellement, en tout cas au niveau législatif, c'est de faire par palier pour permettre au plus de propriétaires possible de financer, de pouvoir faire ces travaux. Et. Donc voilà, donc en janvier 2024, normalement, il y a l'obligation de passer de G à F pour les propriétaires. Mais ça ne concerne... Alors ça concerne les nouvelles locations. Donc s'ils ont un nouveau locataire, ça ne concerne pas forcément les... si des locataires sont déjà présents.
D'accord.
Voilà.
C'est étonnant, mais bon.
Ouais, mais il y a quand même un objectif. Oui, en fait, nous, en tant que groupe de travail, pour l'instant, on essaie de... Ben justement d'analyser les objectifs voulus, ce qu'on voudrait faire et quels sont aussi les freins à ça. Et il y en a pas mal. que ce soit la complexité des aides financières, des fois la difficulté à aussi à rentrer en contact avec les personnes qui pourront réaliser ces travaux. Donc là, récemment, il y a ce qu'on appelle l'ensemblier solidaire. C'est un nouveau métier qui a été créé, qui permettrait en fait de coordonner tout ça, de rendre cette complexité un peu plus facile, un peu plus simple d'accès. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'aides financières qui peuvent permettre de financer une bonne partie. Pour les ménages les plus précaires, il peut rester sur le total des travaux 10% de ce qu'on appelle le reste à charge. Donc, supposons des travaux qui passeraient de la classe G à la classe A et qui coûteraient 70 000 euros. Un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Pour des ménages qui, sous condition de revenus ou autre, qui disposent de certaines aides, ils peuvent du coup avoir quasiment tous les travaux financés et ne rester qu'à la fin 10% qu'ils devraient payer de leur poche. Donc voilà, c'est quand même sous condition de ressources, mais ça peut vraiment aider, sachant que évidemment, plus on saute de classe, plus on arrive à avoir un bâtiment qui serait performant énergétiquement, et du coup, plus nos factures seront réduites. Donc on peut des fois trouver un ratio de, elles peuvent être divisées par 6 à peu près.
D'accord.
Donc en fait, c'est aussi un investissement qui, sur le long terme, est intéressant.
Bien sûr.
Voilà.
Oui, non, c'est sûr. Et puis tout le monde y gagne en fait. Hein. La personne qui vit dans le logement, le propriétaire y gagne aussi, le collectif y gagne parce qu'on diminue le CO2. Donc c'est quand même du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est en plus de ça, quand on fait les travaux, ça dure quand même 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je veux dire, ce n'est pas des choses obsolètes dans un an, deux ans, trois ans. Donc c'est aussi du long terme quand même.
Oui. Puis il faut aussi rappeler que. Même d'un point de vue écologique, la rénovation, c'est plus intéressant que la construction. Donc, en fait, il vaut mieux rénover les logements plutôt qu'en construire des nouveaux.
Bien sûr.
C'est un enjeu énorme.
Ce qui paraît logique, voilà. Encore une fois, mais c'est vrai que les logiques ne sont pas toujours respectées aujourd'hui. Ok, Camille, tu as fait le tour de la question ? Tu as
d'autres choses Oui, à peu près, par rapport aux définitions. Voilà, nous, après, en tant que groupe de travail, c'est un groupe. Notre groupe s'est formé récemment, il y a quelques mois. Donc nous, on essaie pour l'instant de rencontrer les différents acteurs qui, à la fois sociaux, environnementaux, les pouvoirs publics, qui travaillent sur la question. Voilà, d'identifier effectivement quels sont certains freins, mais aussi faire des campagnes de... on réfléchit à des idées de campagnes de sensibilisation, communication sur ces sujets pour... que le plus de personnes concernées puissent avoir accès à ces informations pour pouvoir éventuellement entamer des démarches. Voilà.
D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut... Enfin, tu l'as dit, hein, l'habitat indigne, en fait, c'est différent, c'est quelque chose, c'est d'autres choses, mais...
Un
habitat indigne
peut être une passoire énergétique.
Ok.
Mais toutes les passoires énergétiques ne sont pas forcément des habitats indignes.
Ok.
L'habitat indigne, il y a vraiment une dimension d'habitat un peu délabré qui va vraiment engendrer de vraies souffrances, en fait, à la fois sur la santé physique et psychique, justement, alors que une passoire énergétique peut ne pas forcément avoir des moisissures ou autre.
C'est le degré de souffrance, on va dire, qui n'est pas le même. On peut souffrir aussi dans une passoire énergétique, oui. Quand même, parce qu'on l'a dit, mais à moindre mesure que dans des habitats indignes.
Les habitats indignes,
où parfois, on retrouve effectivement des champignons, des choses quand même assez... Enfin, des poisons, parfois, même des choses assez graves, quoi. Donc, ça va être la différence.
Et en fait, les habitats indignes peuvent être aussi des passoires, parce qu'en fait, ils peuvent à la fois avoir tout ça, mais aussi... en général, c'est lié. Hein,
oui, j'imagine.
D'énormes pertes thermiques. Et donc, c'est une cumulation, en fait. C'est vraiment les habitats indignes. Pour le coup, s'il devait y avoir une échelle de priorité, ça serait ceux qui devraient être effectivement rénovés en premier, après.
En priorité. À Marseille, j'imagine, il y a pas mal de... On est dans une ville, vous le disiez, Stéphane, une des plus pauvres de France. Donc, j'imagine qu'il y a quantité de logements indignes et de précarité énergétique.
Oui. Alors, pas forcément dans tous les quartiers. Malheureusement, on retrouve des disparités en fonction des lieux. Mais on peut trouver pas mal d'habitats indignes, justement, dans le centre-ville. Un peu moins dans le sud. Donc voilà, c'est aussi énormément lié effectivement aux ressources des personnes. Et dans tout ce qui est habitat indigne, enfin, il peut y avoir pas mal d'autres problématiques, mais je ne vais pas forcément me lancer trop dans le sujet, parce que voilà, mais des soucis au niveau du relogement quand on fait des travaux. Voilà, il y a énormément de problématiques sociales liées aussi, des fois, à la rénovation de certains bâtiments.
Oui.
Voilà. Oui. Mais effectivement, Marseille est malheureusement connue pour avoir eu un bâtiment qui s'est effondré dans la rue d'Aubagne.
Oui.
Voilà, le 5 novembre. Et d'ailleurs, suite à ça, un collectif... des collectifs se sont créés, mais notamment le collectif du 5 novembre. Donc en fait, des collectifs d'habitants qui ont subi de plein fouet ce type d'habitat. Et je pense que c'est l'enjeu aussi prochainement d'écouter au mieux les habitants, d'arriver à trouver en fait de prendre des décisions communes dans ce qui concerne ce sujet très important de l'habitat.
Ben oui, je suis bien d'accord que le logement, c'est une priorité dans la vie des gens, hein, clairement, bien sûr, le travail, le logement, c'est très important. Ok, Camille, on finit par la dernière question, si vous le voulez bien, qui concerne le Tour Alternativa 2024. Alors, c'est quoi ? C'est un peu comme le Tour de France, c'est ça ? Vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Tour Alternativa ?
Alors, en effet, il va se passer en France. Alors, il va y avoir beaucoup de différences avec le Tour de France. En fait, dans ce Tour Alternativa qui va durer qui aura plus de 200 étapes, hein, on va avoir aller à la fois la puissance de l'Alternativa nationale en tant que mouvement national et puis local évidemment, hein, l'idée étant de dire que il permettra de développer localement, de manière adaptée, hein, aux villes ou aux métropoles dans lesquelles il passera, de développer, d'accélérer le développement d'alternatives, hein, qui grâce à cette médiatisation, grâce aux experts qui seront tout autour de cette caravane, hein. Alors il a juste de commun le fait qu'il est fait sur un vélo, hein. Alors, un vélo un peu spécial, hein, un vélo emblématique, hein, qui a déjà plus de 10 ans, hein, Camille, qui a commencé il y a 10 ans dans le Pays Basque, hein, et donc c'est pas le premier tour qui sera fait. Alors on a la chance ici à Marseille d'avoir réussi à convaincre les organisateurs, hein, que ça soit l'arrivée du tour, et on souhaite en faire un événement, un très gros événement plein de sens, et ça sera tout début octobre prochain, entre le 4 et le 7 octobre 2024. Alors il n'y a pas de goodies, hein, qui seront distribués. Voilà, on n'est pas dans le tour de la consommation et du petit cadeau marketing, hein. On est dans le tour de la construction, quand on dit d'alternative, c'est-à-dire de solutions qui fonctionnent. On en a donné tout à l'heure pour les déchets ou Camille pour l'habitat, de solutions qui fonctionnent et qui seront potentialisées par toute cette énergie autour de ce tour. Voilà. Quelques mots.
Voilà. Pour ajouter, donc en fait, ça va être des. On va essayer, en fait, durant tout ce parcours qui va durer un petit moment parce qu'il va passer dans plusieurs villes de France, de planter en fait des petites graines de voilà comment on peut allier, comment faire de l'écologie populaire, donc c'est-à-dire de l'écologie qui va rassembler le plus de monde possible autour de sujets qui concernent tous les citoyens. Là, les thèmes qui sont évoqués, notamment, c'est la mobilité, les thèmes principaux de ce tour, et la précarité énergétique. Et voilà. Et donc, en fait, le but, c'est que chaque ville ait ses petits projets qui soient différents en fonction des villes, mais dans ces thématiques-là, et qu'on espère on puisse sensibiliser le plus possible et démocratiser aussi l'écologie et ce genre d'initiative au plus de monde, voilà, pour amorcer un vrai changement.
Ok, mais oui, je comprends. C'est aussi partager peut-être vos problématiques qui sont spécifiques à chaque territoire et aussi les solutions les uns avec les autres et de mélanger un petit peu tout ça. C'est-à-dire, bon, ah ok, elle est bien ton idée, elle me fait penser à autre chose. C'est aussi, j'imagine, ça qui est intéressant de faire dans ce tour-là. Ok, je rappelle aux auditeurs les infos sur lesquelles on peut vous retrouver sur Internet. Donc, il y a le site Internet d'Alternatiba. Vous tapez Alternatiba sur Google et vous trouverez le site. Il y a aussi le site Alternatiba Marseille, .org qu'on retrouve également sur Google facilement. Et voilà, et là-dessus, il y a toutes les infos qu'on vient de dire et encore d'autres informations voilà, que les auditeurs peuvent aller chercher.
Voilà. Et bon, nous on se réunit à la base, c'est un lieu associatif hein, qui réunit plusieurs associations. Et donc il y a Alternatiba, mais il y en a plein d'autres qui travaillent sur beaucoup de sujets très intéressants et des sujets de société. Ça, voilà, c'est ouvert à tout le monde si vous voulez passer, si vous êtes curieux et si vous vous sentez l'envie d'agir. Je pense que passer par la base,
On peut
c'est
donner
un bon moyen.
l'adresse du coup de la base?
Oui, c'est 3 rue Pierre Roche dans le 4e au métro des Chartreux. Et je rajouterais, quel que soit, par rapport à ce que disait Camille, hein, quelles que soient vos envies ou vos compétences, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, oui, mais à quoi je vais être utile? Ah, mais vous serez toujours utile. Hein, et quel que soit le temps que vous pourrez y consacrer, hein, que ce soit 3 heures par mois ou 3 heures par semaine, on saura vous proposer des choses qui vous intéresseront. Et comme disait Camille, hein, il y a de très nombreuses associations qui sont à cette base depuis qu'Alternatiba l'a créée. Et donc, si ce n'est pas la nôtre qui vous passionne, pour X raisons, ce qu'on peut imaginer aussi, hein, eh bien, il y en aura d'autres. Voilà. Et c'est bien sympa.
Bon, bah super, le message est passé. Merci Camille, merci Stéphane.
Merci.
Merci.
Bonne journée à tous.